Il est 21h à Bamako, 22h à Paris et à Abuja. Bienvenue dans Salle Plus, présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, au sommaire de Sahel Plus, la France mobilise 10 000 soldats pour renforcer sa sécurité après l'attaque terroriste contre Charlie Hebdo la semaine dernière. Nous reviendrons aussi sur le parcours des deux frères Kouachi, tués vendredi par les forces spéciales françaises.
Donner plus ou moins de surveillance. À un moment, on a considéré que les frères Kouachi n'étaient plus prioritaires. Ils ont réussi à se faire oublier, ce qui fait aussi partie des tactiques des djihadistes, on appelle la taqiya.
Élise Vincent, journaliste au quotidien français Le Monde. La présence de 6 chefs d'État africains à la grande manifestation contre le terrorisme en France fait polémique. Certains déplorent que la lutte contre Boko Haram n'obtienne pas le même soutien. Et enfin, nous ferons le point sur le gouvernement du Mali. Mais auparavant, voici le bulletin d'information présenté par Jean-Roger Bion. Bonsoir Jean-Roger.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous. Washington a admis avoir commis une erreur en n'envoyant pas une personnalité de haut rang pour assister au rassemblement de solidarité en France à la suite des attaques terroristes de la semaine dernière à Paris. Le porte-parole de la Maison-Blanche a évoqué en partie des problèmes de sécurité. Le secrétaire d'État John Kerry va tenter de colmater les brèches, actuellement en tournée au Pakistan et en Inde. Le chef de la diplomatie américaine va marquer jeudi une escale en France avant son retour à Washington. À Libreville, au Gabon, le domicile de l'opposant Jean Ping a été attaqué. Cité par l'AFP, il affirme que les assaillants étaient une bande de 200 jeunes affiliés au régime. Ils sont venus nous agresser à coups de cailloux, ils ont allumé un feu, cassé les vitres, explique l'ancien président de la Commission de l'Union africaine. Jean Ping accuse la gendarmerie de ne pas être intervenue. Nous avons alerté des militants qui ont livré bataille, poursuit-il. Ces jeunes auraient été déshabillés et mis en caleçon par les militants avant d'être mis à la police judiciaire qui s'est rendue sur place. Le groupe islamiste Boko Haram a attaqué ce lundi une base militaire de Kolofata dans le nord-ouest du Cameroun. L'attaque a visé le quartier administratif où se trouvent la sous-préfecture, la gendarmerie et les camps d'une unité d'élite de l'armée selon la police camerounaise dont s'est fait écho l'AFP. Aucun bilan de l'attaque n'était disponible en début d'après-midi.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Et Cuba a libéré 53 prisonniers politiques selon le gouvernement américain. C'est l'accomplissement d'une promesse faite en décembre dernier lorsque le président Barack Obama et son homologue cubain Raúl Castro ont simultanément annoncé des efforts visant à normaliser les relations entre Washington et La Havane. La section des intérêts américains dans la capitale cubaine a pu vérifier que les prisonniers sont bel et bien en liberté, a déclaré un officiel américain aujourd'hui. Le secrétaire d'État américain John Kerry est à Islamabad pour des entretiens avec le premier ministre pakistanais Nawaz Sharif. La visite de M. Kerry n'avait pas été annoncée publiquement, Lionel Gaïma.
Il s'agit pour le chef de la diplomatie américaine qui effectue une tournée d'une semaine en Asie et en Europe de discuter de la prochaine réunion ministérielle sur le dialogue stratégique entre les États-Unis et le Pakistan. Selon un haut responsable du département d'État américain, ces discussions seront d'une importance cruciale pour faire avancer le combat commun contre l'extrémisme en resserrant la coopération antiterroriste entre Washington et Islamabad. Le mois dernier, une attaque de talibans a fait 150 morts dans une école de Peshawar. John Kerry doit se rendre aussi en France pour exprimer la solidarité des États-Unis après que l'administration Obama a été critiquée pour n'avoir envoyé aucun représentant de haut rang à la grande marche contre le terrorisme hier à Paris.
Et l'ancien président ukrainien Viktor Yanukovych a été placé sur la liste des personnes recherchées par la police internationale Interpol. Il est poursuivi par la justice ukrainienne. Lit-on sur le site web d'Interpol pour détournement de fonds et malversation à grande échelle. Et sport, pour terminer, football. Cristiano Ronaldo, ballon d'or pour la troisième fois. Le Portugais déjà sacré en 2008 et en 2013 est donc désormais l'égal de Johan Cruyff, Michel Platini et Marco Van Basten. On remonte les dunes du Sahel. C'est avec Sahel Plus et Claire Morin-Gibourg.
Merci beaucoup Jean-Roger. Retour à la partie magazine de Sahel Plus sur VOA Afrique. La France a décrété lundi la mobilisation de milliers de soldats et policiers pour parer à la menace de nouveaux attentats terroristes. C'est au lendemain d'une journée historique de manifestation contre le terrorisme. Idriss Fall.
Sur ordre du président François Hollande, 10 000 soldats seront déployés à partir de mardi soir sur des points sensibles du pays, d'après Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense. La moitié de ces policiers et gendarmes seront affectés à la protection de 717 écoles et lieux de culte juifs. D'ailleurs, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui était à la marche hier, s'est rendu aujourd'hui au supermarché Kasher où 4 juifs ont été tués vendredi pendant une prise d'otage. Hier, Paris a été le théâtre d'une manifestation historique avec plus d'un million de personnes, dont 6 présidents africains parmi la cinquantaine de dirigeants venus du monde entier. Le premier ministre français Manuel Valls a assuré ce lundi que la traque se poursuit pour retrouver d'éventuels complices des 3 djihadistes qui ont fait 17 morts la semaine dernière à Paris.
Ce sont donc deux frères, Saïd et Chérif Kouachi, qui ont perpétré l'attentat contre Charlie Hebdo la semaine dernière. Nés en France, élevés en foyer, les deux frères ont été de petits délinquants avant de se radicaliser. Idriss Fall a joint Élise Vincent du journal Le Monde qui revient sur leur trajectoire.
Chérif Kouachi a 32 ans. J'avais été amenée à le rencontrer lors d'un procès qu'il impliquait en 2008. C'est sans doute celui qui était le plus connu des services de police. Il lui reprochait d'avoir été membre d'une filière qui voulait partir en Irak pour faire le djihad. Et lui, il était un des membres décrit comme les plus violents, les plus impulsifs de la bande. Mais il se trouve qu'à l'époque, il n'avait pas pu partir en Irak. Comme son frère Saïd, en fait, ils sont nés à Paris tous les deux, mais dans une famille modeste. On sait que tous les deux ont perdu leurs parents, qu'ils ont grandi en foyer, donc c'est une enfance difficile. Ensuite, ils ont eu le parcours qu'ont eu plein de jeunes qu'on peut retrouver aujourd'hui parmi les djihadistes dans le monde, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par de la petite délinquance, par du trafic de shit. Même Chérif, lui, en fumait à l'époque.
Comment est-ce qu'ils ont fait depuis pour passer inaperçus ?
Pas vraiment passé inaperçu. On les a plus ou moins repérés il y a 10 ans maintenant. Ils ont toujours fait l'objet plus ou moins d'une surveillance. C'est par exemple que notamment en prison, le shérif Kouachi a rencontré quelqu'un qui était incarcéré pour une peine de 10 ans pour des faits de terrorisme beaucoup plus graves. On sait qu'il l'a rencontré même après sa sortie de prison, qu'il a continué de le voir. Il a même été à un moment été suspecté de vouloir participer à une tentative d'évasion d'un terroriste connu dans une, incarcéré dans une prison française. Mais le problème, en fait, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a plus de 500 personnes qui sont fichées, considérées comme dangereuses. Sauf que pour les services, elles sont un peu classées par ordre de priorité. Il faut en moyenne 15 à 30 agents de renseignement pour les suivre quand ils sont prioritaires. À un moment, on a considéré que les frères Kouachi n'étaient plus prioritaires. Ils ont réussi à se faire oublier, ce qui fait aussi partie des tactiques des djihadistes, on appelle la taqiya, et du coup, ils ont pu passer entre les mailles du filet.
Mais où est-ce qu'ils ont pu s'entraîner alors ?
Chérif, on ne sait pas exactement, parce que lors de son procès en 2008, il n'avait pas pu partir en Irak. On sait juste qu'il avait reçu quelques rudiments d'entraînement, mais à Paris. Il paraissait à l'époque quelque chose de très amateur, où on pensait même qu'il s'entraînait au footing dans un parc parisien. Par contre, son grand frère, Saïd, lui, selon les services de renseignement américains, aurait fait au moins un séjour au Yémen et c'est là qu'il aurait pu recevoir un entraînement assez costaud.
Et quel est le rapport avec le tireur présumé de Montrouge, ce Hamedi Coulibaly ?
Le rapport est plutôt un rapport d'amitié. Ahmed Coulibaly a aussi été plusieurs fois incarcéré pour des questions de délinquance. C'est qu'à un moment, Ahmed Coulibaly et Chérif Kouachi ont été suspectés de vouloir participer à l'évasion d'un terroriste reconnu. Au départ, c'est une cellule purement française, c'est-à-dire que c'est une petite bande de pieds nickelés qu'on avait identifiée à partir de 2003-2004, mais ensuite, visiblement, on les a sous-estimés. Ces gens-là, au gré de leur séjour en prison, ont été en contact avec des gens plus expérimentés, plus dangereux. On avait donc Chérif qui lui était plutôt en France, qu'on a Saïd qui a pu faire un séjour au Yémen, mais en même temps on sait que quelqu'un de cette bande française au départ a revendiqué l'année dernière l'assassinat de 2 opposants en Tunisie. Il y en a un autre qui est devenu l'un des principaux bourreaux de l'État islamique. Tout ça se fait en 10 ans. C'est qu'au départ, ce n'était pas grand-chose. C'était un peu des pionniers parmi les premiers de ces Occidentaux et notamment de ces Français à vouloir partir faire le djihad, notamment en Irak, et que progressivement, ils sont devenus de plus en plus radicaux et que finalement, ils sont passés d'idées d'attentats kamikazes en Irak à d'attaques sur le territoire français en Europe.
La journaliste Élise Vincent du quotidien français Le Monde. groupe islamiste nigérian Boko Haram a attaqué ce lundi une base militaire de Kolofata dans le nord-ouest du Cameroun. Jean-Roger Bion.
L'attaque a visé le quartier administratif où se trouvent la sous-préfecture, la gendarmerie et les camps d'une unité d'élite de l'armée selon la police camerounaise dont s'est fait écho l'AFP. Aucun bilan de l'attaque n'était disponible en début d'après-midi. Le chef de Boko Haram, Aboubakar Shekau, a menacé dans une vidéo postée sur YouTube le président camerounais Paul Biya au début du mois de janvier. Boko Haram a lancé depuis quelques mois une série d'attaques dans la région du nord-ouest du Cameroun, partageant une frontière commune avec le nord-est du Nigeria. Kolofata a été plusieurs fois la cible de Boko Haram, notamment en juillet 2014, où plusieurs personnes ont été tuées. C'est dans cette même région où 27 personnes, dont l'épouse d'un vice-premier ministre, avaient été enlevées, puis libérées après plusieurs semaines de captivité.
Le soutien de 6 chefs d'État africains qui étaient présents hier à la grande manifestation contre le terrorisme en France fait aujourd'hui polémique en Afrique. Alors que les attaques de Boko Haram se multiplient et s'intensifient, beaucoup aimeraient que le Nigeria et ses voisins puissent bénéficier d'un soutien aussi important dans leur lutte contre le groupe terroriste Boko Haram. Au micro d'Idriss Fall, Ferro Bali, éditorialiste ivoirien à Abidjan.
L'identité réelle des auteurs des attaques perpétrées dans l'extrême nord du Cameroun ne fait toujours pas l'unanimité au sein de l'opinion camerounaise. La thèse d'un complot contre le pouvoir de Yaoundé est régulièrement évoquée. Biloua Ayissi, ancien commissaire de police.
Il y a des gens au nord qui ont décidé de prendre le pouvoir par la rébellion. Comme ça se passe en ce moment, on vous dit on reconnaît les rebelles du Cameroun et la communauté internationale va fournir des armes. Même en barrant la frontière avec le Nigeria, on ne va pas arrêter les attaques.
Pour bon nombre de Camerounais et d'observateurs, les exactions commises dans le septentrion sont l'œuvre des islamistes de Boko Haram. Angelbert et Somba Bongono.
La piste de la rébellion nous envoie un peu en brousse. Parce que jusqu'ici, nous n'avons pas tous les éléments objectifs d'une vraie rébellion qui veut le pouvoir. Nous avons affaire à des gens qui peuvent commettre, comme il dit, sur le pont de Maroua. Vous savez, des actions isolées ne sont pas exclues. C'est pour cela précisément que la loi sur l'antiterrorisme a pris soin de repréciser qu'on n'a pas besoin d'être 10 pour faire une action terroriste. Dès que vous commettez une action de type terroriste, même si vous êtes seul, on appelle ça entreprise individuelle, en relation avec une activité terroriste, vous pouvez être condamné.
Le débat qui a cours aujourd'hui au Cameroun a prêté le flanc aux rumeurs et autres supputations. Pourtant, les spécialistes des questions de sécurité sont clairs. Martial Ongba, géostratège.
Boko Haram fait partie de ce qu'on appelle des menaces polymoléculaires diffuses. C'est un type de menace qui peut se réduire à la plus petite unité de 3 éléments qui opèrent et qui produisent des effets de portée majeure. Ça, c'est d'un. De deux, Boko Haram est une menace transnationale. C'est-à-dire que vous pouvez régler le problème du côté camerounais. S'il n'y a pas de solution du côté nigérian, eh bien, le problème va perdurer.
Malgré l'ampleur que prend la guerre contre Boko Haram sur le terrain, les Camerounais, eux, restent divisés sur l'identité réelle de ceux qui sèment la terreur dans la partie nord du Cameroun. Yaoundé, Jules Lobo, pour La Voix de l'Amérique.
Et donc, vous l'avez compris, il ne s'agissait pas de Ferro Bali, éditorialiste à Abidjan, mais bien de la correspondance de Jules Elobo à Yaoundé sur la menace Boko Haram au Cameroun. Nous entendrons demain donc l'éditorialiste sur son point de vue sur la lutte, la polémique concernant la lutte contre Boko Haram en Afrique et plus spécifiquement autour du Nigeria. Nous terminons l'émission par le Mali qui a désormais un nouveau gouvernement. La nouvelle équipe est composée de 29 membres contre 31 contre l'équipe sortante. 8 ministres ont été remerciés. Le point à Bamako avec Kassim Traoré.
La nouvelle équipe gouvernementale compte 29 membres. 8 membres de l'ancienne équipe ont été remerciés 6 nouveaux font leur entrée. Le nombre de femmes passe de 5 à 3. 4 ministres ont changé de département ministériel. Abdoulaye Ba, économiste.
Ma première remarque est celle du ministère de la Justice. Alors je me pose la question, pourquoi Batili, qui avait commencé un travail excellent, se retrouve au ministère des Domaines? La deuxième remarque, le départ de Jacqueline. Je me pose la question, quelles sont les raisons qui fondent son départ? Bon, au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, il y a Igor Diarra qui est venu. Igor Diarra, effectivement, c'est un banquier. Certainement, elle n'a pas une très grande expérience en finances publiques.
Parmi les 6 entrants, il y a Choguel Kokala Maïga qui hérite de l'économie numérique, de la communication. Il est aussi porte-parole du gouvernement. Mamadou Igor Diarra va aux finances, alors que Mohamed Ag Erlaf signe son retour à l'environnement. Diarra Arakitala de la fonction publique, Barthélémy Togo de l'éducation nationale, Dramane Damelé de l'urbanisme sont les nouveaux membres de ce gouvernement. Bruno Loma, communicant.
Nous pensons que les erreurs commises par le passé seront redressées pour que le Mali reparte sur de bons pieds. Et encore, faudrait-il qu'on arrive à un accord définitif de paix. C'est ça l'espoir du peuple malien.
Même s'il n'y a pas eu les changements souhaités, les Maliens ont apprécié le départ des ministres impliqués dans les surfacturations. Mamadou Koulibaly, juriste.
Les 4 ministres impliqués dans l'histoire des détournements ont quitté. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Et ça va soigner l'image du pays à l'échelle internationale. Parce qu'en réalité, il faut reconnaître que le Mali avait perdu sa crédibilité sur le plan international. Hein.
Le départ du colonel à la retraite Bandaou du ministère de la Défense et des Anciens Combattants, remplacé par Tchema Hubert Koulibaly, n'est pas bien accueilli au sein de l'opinion publique malienne. Abdoulaye Ba, économiste.
Tchema Koulibaly au ministère de la Défense. Bon, on ne dit pas forcément qu'il faut être un militaire pour être au ministère de la Défense. Bon, on attend ce que Tchema Koulibaly amène donc rapidement les réformes que le ministère de la Défense ne soit attend. Parce que sur le papier, certainement, c'est des gens qui ont des bons CV. Mais maintenant, il faut qu'on les voit ne soit à l'œuvre.
Bien que les changements souhaités ne sont pas intervenus, certains préfèrent voir l'équipe Modibo Keïta à la tâche.
On voit qu'il n'y a pas trop de changements, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup qui sont revenus et certains ont eu leur portefeuille plus renforcé. On leur souhaite bon vent, que ce soit une équipe gouvernementale de combat et qui vont faire de la question une priorité pour arracher un accord de paix.
Les passations de services dans les différents départements ministériels commencent lundi 12 janvier 2015. Le premier conseil des ministres se tiendra dès le retour du président de la République de Paris qui a participé à la grande marche contre le terrorisme. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
No one else on by my lonely, ring my lonely. Ligrir na wan we, yon we.
Sahel Plus, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Michel Joseph. À la technique, Carl Sterling. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec le Sénégalais Elzo Jamdong et son titre Lonely, dont le clip est sorti aujourd'hui. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur VOA Afrique ou d'ici là, sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel Plus. Bonne soirée et bonne nuit à tous.
Yangi defa nen mal tanun why can munu mutere mujum fogo nani tsa why ram setat gisne mun bokatirum fuki nit munen tolo xel why ñaari nit munen tolo xol li nga gëna bëgg mola mëna gëna bëñ lajal alkolo bi barre ci butelu bi ki nga bëgg dafa wara faj sa jangoro mooy sa xarit mooy sa mas mooy sa àndando ki nga bëgg dafa wara doon sa wéeru waay boo nare dëgg ci fitna da ngay waaru waay ñu sañoon duñ fi yegg si bu ñu mënoon muñ xamante nañ waaye nuroo wuñ bi borom bi bindee sunu tasi juddoo guñ bëggante nañ waaye jugoo wuñ newa naa la sama baaye ma lawli Ring my lonely, ligre na wala mayon wii.
young we Bukhanal nema doyul ma dolly Drink my dolly Mboki yang it defat Nelen malatanun Waiken munu materi majum Fogo nani tesat Waira musetat Ugisne munu mboki chirum